Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Objectif Startup, l'émission dédiée aux startups, aux entreprises françaises. Et aujourd'hui, je reçois Adrien Porte. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir, fondateur de Paname Collection. On va en parler dans quelques instants, et de la ligne éco-responsable Sapiologie. Alors, Paname Collection est une marque qui est née en 2017. Pouvez-vous, une marque de vêtements, pouvez-vous nous expliquer comment est née Paname Collection et qu'est-ce que Paname Collection ?
Alors, j'ai lancé... Alors, il faut savoir que je viens pas du tout du monde de la mode à la base. Moi, je travaille en finance à New York et comme beaucoup de gens, j'en ai eu un peu ma claque au bout de quelques années. Et à mon retour en France, en fait, j'ai voulu lancer une marque de prêt-à-porter pour hommes parce que je me rendais compte que l'expérience shopping qu'on proposait à l'époque aux hommes, c'est-à-dire aller chercher des chemises blanches au cinquième étage des grands magasins, ne répondait pas forcément à leurs attentes. Parce qu'un homme, ce qu'il veut, c'est un shopping simple, efficace et des produits qui durent dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle, en général, quand une marque lui va bien, il lui est extrêmement fidèle.
C'est vrai.
Donc c'était un peu le but numéro un de Paname Collection, vraiment masculiniser le shopping. Et en étant un peu un outsider de la mode au début, c'est moi j'ai toujours une petite fibre un peu, on va dire, éco-responsable, et j'ai assez vite déchanté lorsque j'ai commencé à visiter pas mal d'ateliers en Europe, où je me rendais compte que finalement le greenwashing c'était vraiment une réalité dans la mode. Dans le sens où quand on visite des ateliers, on peut dire, tiens, si tu veux, on te met du coton bio sur des étiquettes, personne n'ira vérifier, on peut faire du made in France.
C'est mensonger.
Voilà, donc il y a plein de choses qui n'étaient pas très nettes. Et finalement, je me suis dit, pour commencer, essayer de bien faire les choses, on va essayer avant tout de faire des vêtements qui durent dans le temps, donc travailler avec des tissus de qualité, des matières de qualité, des ateliers de renom, car finalement... plus vous gardez longtemps un vêtement, plus vous réduisez son empreinte carbone. Donc bien c'était sûr. Un petit peu le début de Paname Collection. Donc on est distribué uniquement sur le web, sans revendeur. Donc il n'y a qu'un stop entre nos ateliers, notre client, c'est notre plateforme logistique. Et en 2021, je dois dire que c'est vrai qu'on avait le Covid, on a eu tout le dôme de chaleur au Canada, les inondations en Belgique, en Allemagne. Et je me suis dit, en tant que père de jeunes enfants, je me suis dit que je voulais un petit peu plus loin finalement dans l'éco-responsabilité, arrêter de me dire que c'était impossible de produire des vêtements plus proprement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à repartir de zéro avec notre gamme Sapiologie pour comprendre vraiment qu'est-ce qui pollue dans chaque étape de fabrication d'un vêtement, de manière à essayer de créer des vêtements qui vont durer longtemps avec l'empreinte carbone la plus faible possible.
Donc avec Sapiologie, vous vouliez aller encore plus loin.
Exactement, voilà. Donc c'est pas facile parce qu'il y a l'offre éco-responsable encore très faible dans le domaine de la mode. À titre d'exemple, il y a que 1% de la production mondiale de coton qui est certifiée bio aujourd'hui, donc c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais voilà, on se dit, petit à petit, on veut apporter notre pierre à l'édifice.
Alors moi, je suis un peu sidérée d'entendre ça, parce que c'est vrai que quand on va dans les magasins, on voit très fréquemment coton bio, certifié coton bio, donc c'est pas vrai en fait.
C'est pas... Faut s'y connaître en certificat, parce que moi ce que je dis souvent à nos clients, c'est déjà le prix est un bon indicateur. Aujourd'hui, un t-shirt bio équitable à 5 €, faut qu'on m'explique comment on peut faire ça. C'est pas possible.
C'est pas normal. Ouais.
C'est pas normal. Ouais. Donc
le bio est plus cher. Le coton bio est plus cher.
Le bio est plus cher. Si vous voulez faire ça en Europe, parce que ce qui est très important, finalement, c'est là où les vêtements sont fabriqués. Quand on travaille avec la France ou le Portugal, des pays qui ont des mix énergétiques plutôt favorables à des pays qui tournent au charbon ou au pétrole, comme c'est souvent le cas en Asie, déjà, on réduit énormément l'impact carbone d'un vêtement. Donc, faire du éco-responsable pas cher, pour moi, à moins d'entre à perte, je vois pas comment c'est possible. Donc, souvent, le prix est déjà un bon indicateur. Et se méfier des labels qui ont l'air créés par les marques aussi, ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention.
Pour vous, ça, c'est du greenwashing
Je dis pas tout du greenwashing, mais il y a quand même pas mal de choses. Je suis pas forcément là pour critiquer ce que font les autres. Mais,
non, bien sûr, mais c'est bien de. C'est, quand on ne connaît pas, c'est vrai
quand
que.
Quand on fait du coton bio au Bangladesh, faut m'expliquer donc qui a fait les vêtements, comment sont rémunérés les travailleurs, qui a certifié le coton bio, parce que là il y a des scandales en permanence, il y a des labels qui ne valent rien, il y a une de vos consoeurs notamment, Élise Lucet, qui a fait un très beau reportage sur les labels dans le coton, donc on se rend bien compte que Il y a pas mal d'incohérences dans le textile aujourd'hui et c'est dur finalement pour le consommateur, j'en suis bien conscient, de s'y retrouver.
Mmh. Et là, je reviens sur ce que vous dites, hein, parce que bon, il y a la matière d'une part, le coton bio, voilà, et puis d'autre part, il y a le bien-être et la qualité de travail des salariés, des personnes qui fabriquent ces vêtements. Et c'est vrai que souvent dans les pays comme ça, c'est des conditions de travail qui sont déplorables. Et nous, quand on achète en France dans un magasin, on n'y pense pas forcément, on ne s'en rend pas compte. Et c'est vrai que c'est important quand même d'y penser.
Bah, en tant que consommateur, je dirais qu'il y a trois réflexes à avoir quand on achète un vêtement. C'est un, déjà, le prix. Si ça a l'air éco-responsable et pas cher, c'est qu'il y a forcément une économie qui a été faite quelque part. En deux, c'est regarder l'étiquette de composition. Si on comprend pas ce qu'il y a dedans, vous voyez plein de pourcentages différents, on évite. Donc essayez de privilégier toujours les matières naturelles, le coton, le lin, la laine, la soie, et éviter toutes les matières plastiques, tout ce qui commence par polyamide, polyester, l'acétate, tout ça, on évite au maximum. Et enfin, le pays de fabrication. Donc si vous voyez que c'est fait au Portugal, en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, je sais pas où, on sait que c'est des pays qui ont des normes sociales beaucoup plus strictes que certains pays d'Asie. Donc c'est déjà trois cases qu'on peut checker pour être sûr qu'on s'achète un vêtement qui a été fait dans de bonnes conditions.
Alors forcément le coût est plus élevé.
Oui.
En revanche le vêtement dure plus longtemps.
Voilà, après normalement si on en prend soin, parce qu'il faut savoir que le consommateur a une grande responsabilité dans l'empreinte carbone de la mode. On estime qu'aujourd'hui, environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la mode est due finalement à l'utilisation faite par le consommateur, c'est-à-dire le lavage et le sèche-linge. Donc plus vous lavez un vêtement et plus vous le mettez au sèche-linge, plus vous allez le dégrader et réduire sa durée de vie. Donc c'est sûr qu'avoir des vêtements solides à la base, ça va aider à améliorer l'empreinte carbone d'un vêtement. Si vous achetez un bon... Moi, j'ai nos premiers protos, ils ont 5 ans, je les porte encore. Donc c'est sûr que si je porte mon chino 5, 6, 7 ans, voire 10 ans, il aura une empreinte carbone beaucoup plus faible que si je vais me racheter mon chino tous les 1 an ou 2 ans parce que la coupe est passée ou des coutures ont sauté.
Alors, on va parler un peu de Paname Collection. Donc, Paname Collection, déjà, pourquoi ce nom ?
Alors, c'est un peu perso, mais quand je suis rentré de... j'avais quitté Paris en 2010, après mon école, en me disant, j'en ai marre de Paris. Je trouve que c'est une ville très conservatrice.
HEC, hein, l'école.
Ouais,
voilà.
Très conservatrice, tout ça. Donc, je suis parti à New York. Et c'est vrai qu'en me retournant de New York, en fait, j'étais agréablement surpris. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Paris, finalement. Et je trouvais que Paname, c'est le côté un petit peu plus décontracté, accessible de la ville. Et donc, voilà, c'était pour me dire, tiens, toutes les maisons de mode s'appellent Paris. Il y a souvent une image de la mode un petit peu hautaine. Moi, j'ai une mode qui soit un peu plus proche de ses clients, auxquels les hommes puissent plus facilement s'identifier. Et donc, voilà, Paname, c'est le côté un peu plus décontracté, accessible pour moi de la mode masculine, plutôt qu'une mode très hautaine et très parisienne.
Et alors, sapiologie, pourquoi?
Sapiologie, ça vient du latin sapiens, donc homo sapiens, qui veut dire, c'est-à-dire savoir, juger. Il y a toute une connotation, en fait, à la réflexion, arrêter de se précipiter dans tous nos choix. Donc, c'est prendre un petit peu son temps, prendre de la hauteur sur ce qu'on fait pour essayer d'avoir une mode un peu plus responsable que ce qu'elle est actuellement.
Donc mûrement réfléchi comme nom. Alors où sont confectionnés les vêtements de la ligne éco-responsable Sapiologie aujourd'hui? Comment ça se passe?
Alors aujourd'hui on travaille principalement avec la France et le Portugal.
D'accord.
Donc des pays européens.
En
France notamment, on a travaillé avec deux ateliers de tricot 3D. À Saint-Malo et à Roubaix. Donc le tricot 3D, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, parce que ce n'est pas encore une technologie très connue.
Mais ma grand-mère tricotait, mais...
Voilà, elle tricotait sûrement en 3D, votre grand-mère.
Je ne sais pas, pas sûr.
Ce qui se passe, c'est que normalement, le tricot traditionnel, vous tricotez les différents pans d'un pull. Mm-hmm. Après, vous assemblez le col, les poignets, les manches, et vous avez un pull. Le tricot 3D, il faut savoir que tout est tricoté en une seule fois.
D'accord, avec des machines.
Avec des machines, voilà. Donc un pull, un de nos pulls, ça met à peu près une grosse trentaine de minutes à être tricoté. Et c'est pas qu'une technologie qui est gadget, c'est une technologie qui a pas mal d'avantages environnementaux. C'est que ça permet de... On utilise moins de matières premières. On économise entre 20 et 30% de matières premières par rapport à un pull traditionnel.
D'accord.
ça ne génère quasiment pas de déchets. Et surtout, le fait de ne pas avoir de couture, ben, ça veut dire qu'on crée des produits plus solides parce qu'on a tous eu, je pense, sur un pull, le petit trou
le
à l'aisselle.
Tout à fait.
Exactement.
On entend crack.
Exactement. Voilà, là, on a un petit trou à l'aisselle. Qu'est-ce que je fais? Je le répare, je le répare pas. Donc là, on a des produits qui déjà consomment moins de matières premières, qui sont sans couture. Certains disent que c'est plus confortable. Mm-hmm. C'est vrai que nous, on a des bonnets sans couture et je les trouve assez confortables. Il n'y a plus la petite couture qui gratte à la tête.
C'est vrai que c'est plus confortable. Et puis pour les personnes qui ont les peaux sensibles et tendance à l'eczéma, c'est mieux aussi.
Ah, c'est pas, ouais, et après, c'est aussi une question de matière première, mais effectivement, c'est ce que m'a dit quelqu'un de l'équipe. Et l'autre gros avantage de la 3D, c'est qu'en fait, c'est une technologie qui, du coup, on utilise un peu moins de main-d'œuvre, mais ça permet de faire des produits de Made in France, très qualitatifs, des produits de luxe finalement, à des prix beaucoup plus abordables que le luxe traditionnel.
Cher, parce qu'il n'y a pas de salaire à payer derrière.
Exactement. Il y a des salaires à payer pour les programmeurs, les experts mailles, les petites mains après qui vont s'occuper de la fente du pull.
Bien sûr.
Mais il n'y a pas de ce qu'on appelle des rebailleuses. Par exemple, les dames qui vont tricoter le col au corps, ça c'est des métiers qui forcément. Déjà, on n'a plus ces métiers-là en France. Il faut savoir qu'on a tué notre industrie textile. Donc il y a très aujourd'hui il reste une dizaine de tricoteurs en France.
D'accord.
Et les rebailleuses, c'est très compliqué à trouver.
Ouais.
Et de ce qu'on m'a dit, c'est que c'est souvent des métiers où à 40 ans, on commence à avoir des problèmes de vue parce qu'elle serait toute la journée en train de tricoter, avoir les yeux rivés sur un col et du jersey, c'est pas forcément des métiers sur lesquels on a une très forte valeur ajoutée.
Ouais. Alors juste, vous parliez donc du coût du produit qui est réduit grâce à ça, enfin en tout cas qui est pas très cher. En revanche, en ce qui concerne la consommation d'énergie, qu'en est-il? Parce que c'est des machines qui font ce tricot 3D et qui dit machine dit consommation d'énergie. Oui. On connaît la crise énergétique, le coût de l'énergie en ce moment. Est-ce que ça coûte cher par rapport à ça?
Non. En fait, c'est ce qui va coûter cher dans le textile en termes d'énergie, c'est dès qu'il y a ce qu'on appelle les wet treatments, donc c'est des traités thermiques de stabilisation des tissus, de la teinture, tout ça. Quand c'est purement mécanique comme ça, ça consomme pas beaucoup. Il faut savoir qu'une machine comme ça, vous pouvez l'amener dans le studio, vous la branchez sur votre prise et elle va tricoter. Et ayant acheté un appartement, du coup, j'ai comparé la consommation de ces machines par rapport à mon lave-vaisselle ou mon sèche-linge et ça consomme moins. Donc globalement, c'est pas trop la consommation énergétique de ces machines n'est pas aujourd'hui un sujet.
Donc un coût vraiment maîtrisé.
Exactement, oui. En fait, si dans un monde idéal, faut savoir que des pays comme l'Espagne ou l'Italie ont des parcs avec ces machines-là et arrivent à concurrencer le Made in China.
D'accord.
Donc dans un monde idéal, on peut vraiment faire des économies d'échelle et réindustrialiser notre pays sur la partie tricot.
Alors combien coûte par exemple, donc là je suis sur le site internet Panam Collection avec un s.com, il y a des chemises donc 95-90 €, c'est des prix vraiment abordables au final.
Ben, si vous considérez que votre chemise, vous allez, si vous en prenez soin, que vous faites pas n'importe quoi, que vous allez la garder 8-10 ans, ben voilà, ça vous coûte, je considère que c'est des prix tout à fait justes qui permettent de rémunérer chaque atelier, nos employés aussi, à un juste prix. Donc, je pense que, après ces prix-là, on arrive aussi à les atteindre parce qu'on est exclusivement distribué en ligne.
Mm-hmm.
Donc forcément, on n'a pas de boutique.
Il n'y a pas d'intermédiaire.
Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. Donc ça c'est aussi ce qu'on essaye de promouvoir, on sait que les hommes sont fidèles, donc nous on voit plein de clients, on a un taux de repeat qui est extrêmement élevé parce que le plus dur c'est souvent le premier achat. Et une fois que les clients sont satisfaits, ils reviennent très facilement.
Alors, ça existe depuis 2017, hein, Panam Collection. Donc, ça a été créé en 2017. Entre temps, il y a eu le confinement, il y a eu la guerre en Ukraine.
Ouais.
Est-ce que vous avez vu une évolution des consommateurs, une évolution du comportement des consommateurs, une prise de conscience? Est-ce que vous avez constaté ça?
Oui. Alors, déjà, ce qui était intéressant, c'est de voir que nous, en 2020, on a fait une super année. Mais parce que je pense qu'on avait beaucoup d'avance sur le digital.
Ouais.
Donc, on avait vraiment bénéficié de ça. Et après, c'est vrai que forcément, la consommation textile est liée au moral des ménages. Donc, nous, c'est vrai qu'on avait, on a lancé, on devait le sortir dans une gamme Sapiologie avec notre premier pull tricoté en 3D début mars. On a retardé le lancement parce que le jour du lancement correspondait plus ou moins au lancement de la guerre en Ukraine.
Ouais.
Et je pense que quand on nous parle de crise de l'énergie, de la hausse du prix du chauffage, même si on a une clientèle assez SP+, ça reste quand même, on reste dans un contexte assez assez anxiogène et ça et forcément ça incite moi à refaire sa garde-robe, à consommer.
Bien sûr.
Après c'est vrai que bah nous aujourd'hui la gamme Sapiologie, donc on a eu ses premiers pulls tricotés en 3D. La veste que je porte par exemple a très bien marché, on l'a faite, c'est une veste de travail qu'on a fait, qui est faite dans des tissus dans des fins de stock du groupe LVMH. Donc on a décidé de pas produire du tissu pour cette veste. Donc on a trouvé ces fins de stock du groupe LVMH, donc ça contribue aussi à l'économie circulaire. Ça a très bien marché. Donc on sent que finalement nous les produits phares de cette année c'est avant tout les produits de la gamme Sapiologie, parce que voilà on raconte une histoire et on montre aussi qu'il est possible de consommer, de se faire plaisir, d'avoir une mode stylée, parce que parfois la mode éco-responsable, on peut s'imaginer, pardon pour le parallèle, mais parfois un peu trop des bonnets péruviens et on peut faire quand même des choses sympas de manière éco-responsable.
Non, il y a plus de choix que ça.
Donc voilà, on est très, on sent qu'il y a, on était au salon du Made in France ce week-end pour présenter tous nos articles Made in France, qui dans la plupart sont tricotés en 3D, bonnets, écharpes, et c'est, ça a très bien marché parce que le public comprend dans la direction dans laquelle on veut aller.
Bien sûr. Alors là, j'imagine qu'en ce moment, c'est un peu l'effervescence sur le site à l'approche des fêtes de Noël.
Oui, c'est ça. Il y a un gros. Il commence à faire froid. Il y a la fête de Noël, donc on a lancé notre collection hiver. Donc oui, ça tourne bien là.
C'est votre plus grosse période.
Oui, en général, c'est le quatrième trimestre. Oui.
Ouais. Ouais. Et alors, pour l'instant, c'est que pour les hommes. Est-ce que vous envisagez Sapiologie ou Paname Collection pour femmes?
Alors, tous les vêtements Sapiologie sont. On a pas mal de produits quand même assez mixtes, notamment tout ce qui est pull. C'est assez facile. La veste de travail que je porte, il y a pas mal de femmes qui l'ont commandée pour elle.
Elle existe encore, cette veste de travail?
C'est une édition limitée. Il doit nous en rester peut-être une ou deux sur site internet.
Je vais me dépêcher alors.
On a la version hivernale qui est notre best-seller en ce moment, qui est doublée, mais toujours avec des fins de stock du groupe LVMH.
Et ça, c'est très intéressant, les fins de stock, parce que c'est, je crois que c'est des quantités astronomiques qui sont perdues chaque année par tout.
C'est ça.
Le
et nous, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on s'est entouré d'un bon réseau d'ateliers. Et si demain, vous nous filez. Si LVMH il a 150 mètres de tissu qui traite dans un coin, nous on est capable à partir de ça de faire une centaine de vestes par exemple.
Donc et on ça comment ça vraiment... se passe, vous payez pour avoir les chutes, les fins de,
ouais,
de
on les achète,
mais après
en fait LVMH a développé sa propre start-up qui revend ses fins de stock, donc parfois il y a 3 mètres, 5 mètres, parfois il y a 50 ou 100 mètres, ça dépend en fait. Et du coup on a aimé cette initiative et pareil on a décidé de les mettre en avant, donc et apparemment les clients adorent ça, donc
bien sûr, mais c'est vrai,
on s'en plaît pas, donc et en ce qui concerne la femme, l'objectif pour 2023 est d'ouvrir notre propre boutique atelier de tricot 3D dans Paris,
donc pour faire quatrième, c'est ça?
Alors ça on sait pas encore, on est en discussion, mais ouais, idéalement plutôt central.
Bien sûr.
Et dans le but de relocaliser les tricots en France, de faire des pulls made in Paris, parce que finalement, un des gros avantages de la 3D, c'est qu'on peut produire quasiment à la demande et faire du sur-mesure. Donc, on peut très bien dire, tiens, aujourd'hui, on lance le col roulé bleu marine, hommes et femmes, voire enfants, et avoir pas mal de tailles différentes, parce que c'est extrêmement facile sur le logiciel de se dire, tiens, j'en sais rien, si je suis 1m70, mais j'ai très long bras, on peut très vite créer des nouvelles tailles en fonction des différentes morphologies. Donc, en ouvrant cette boutique, boutique atelier de tricot, on espère lancer la femme officiellement et l'enfant l'année prochaine.
Il y avait une marque de basket qui avait lancé ça aussi il y a quelques années, je crois, où justement des baskets un peu sur mesure. Ouais. Mais c'est vrai que ça marche bien. Alors justement, pour ouvrir cette boutique, j'imagine qu'il vous faut des investisseurs.
Exactement, oui.
Comment ça se passe du coup
On vient de commencer la levée de fonds, donc on va chercher des investisseurs, on va chercher de la subvention BPI et aussi forcément des dettes pour financer les machines et les travaux de la boutique. Donc on vient de commencer la levée de fonds pour ce nouveau projet.
D'accord. Et c'est pas trop dur en ce moment, on connaît la conjoncture, c'est vrai que les fonds prêtent moins facilement, il y a moins d'argent en circulation.
Alors
forcément.
C'est vrai qu'on va peut-être d'abord s'attaquer à des business angels.
Ouais.
On se fait accompagner par les forces françaises de l'industrie pour cette levée, parce que finalement les fonds aujourd'hui ont quand même souvent une appétence pour les boîtes tech.
Ouais.
Après, j'y crois beaucoup parce que finalement l'un des mérites, si je peux utiliser cette expression, du Covid, c'est ça a bien mis en lumière finalement les carences de l'économie française, à savoir le fait qu'on a tué notre industrie. On a Et donc finalement sur deux projets qui veulent contribuer à la réindustrialisation de la France, qui est un produit qui produit une électricité quand même globalement propre par rapport à certains de nos voisins européens, je pense que ça va dans le sens de l'histoire.
Donc les investisseurs sont friands de ce genre d'entreprise.
Pour l'instant, c'est les premiers retours que j'en ai eu. Après, voilà, on n'a pas encore fini la levée, mais oui, on sent qu'il y a une certaine traction au fait de dire, tiens, on veut faire du Made in France, mais on ne veut pas faire n'importe quel Made in France, on veut faire du Made in France innovant.
Éco-responsable.
Et remettre la France, finalement, grâce à cette technologie, de re-rendre la France compétitive sur le marché européen et mondial.
Donc pour vous, vous sentez pas une tension, en tout cas ça se profile bien.
Depuis qu'on pitch, on a commencé les premiers pitch, on sait pas du tout. On sent que justement il y a une certaine curiosité et que ça éveille l'intérêt. On sait que c'est pas la période la plus facile pour faire une levée de fonds, mais vu que ce projet va dans le sens et qu'il y a une certaine volonté des pouvoirs publics aussi de contribuer à la réindustrialisation du pays, forcément, voilà, on sait que c'est un projet qui coche pas mal de cases aujourd'hui.
Un petit mot, vous parliez du salon Made in France tout à l'heure, c'était comment? Ça vous a plu? Vous avez rencontré des personnes intéressantes, j'imagine?
C'est vrai que nous, on a une communauté très homme, 25-45, CSP+, au salon du Made in France, c'est plus diversifié, donc c'était intéressant. On avait une télé où on montrait bien tous nos ateliers, ce qu'était le tricot 3D. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir, de tester finalement ces produits en grandeur de nature. Donc, voir comment les gens réagissent au fait que la technologie soit éco-responsable, à ce qu'on soit capable de produire à Roubaix ou à Saint-Malo, faire des produits de luxe abordables, ça a beaucoup plu, oui.
Roubaix, Saint-Malo, un site au Portugal. Est-ce qu'il y a d'autres sites de production qui vont ouvrir dans les mois, l'année à venir ou...
Nous, aujourd'hui, on travaille principalement avec le Portugal, la France et l'Italie, qui sont des pays déjà proches de la France, où on considère qu'on a un excellent rapport qualité-prix avec un très très bon savoir-faire. Donc aujourd'hui, on se contente de l'Europe et on n'a pas prévu d'aller produire dans d'autres pays.
Et du coup, les clients de votre site internet, ce sont des Français exclusivement pour l'instant?
Principalement, oui, 95% c'est la France. Il y a un peu de pays francophones comme
Belgique, Suisse,
quelques commandes parfois, Angleterre, Espagne, États-Unis, mais globalement c'est la France.
Oui. Et est-ce que vous comptez justement ouvrir un peu les portes, en tout cas en Europe, du site internet?
Parce que dans mes rêves les plus fous, le but ça serait que si on arrive à ouvrir notre atelier de production, de produire à la demande localement, c'est de forcément pouvoir décliner le concept dans d'autres villes d'Europe.
Écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Eh bien, merci infiniment Adrien
merci
Porte.
De m'avoir
Je rappelle le site internet, donc c'est Paname Collection avec un S.com pour faire ses achats pour Noël.
Voilà, bien joué. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Objectif Startup.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.